Sur la planète, du Big Bang à la société de l'information, le rythme et la musique parcourent le temps et investissent l'espace sonore. Les collecteurs de sons, anthropologues modernes, tentent de comprendre le lien entre ce phénomène et l'humanité. Bernard Lomax et son équipe accueillent chaque soir de concert les invités qui devraient leur permettre de découvrir la vérité. Radio HDR et le 106 présentent Radio Lomax, l'émission du 106.
Bonjour, bienvenue dans Radio Lomax, l'émission du 106 sur HDR et Principe Actif. Tous les lundis à 18h, rediffusé les samedis à 10h. Au programme aujourd'hui, les interviews de La Féline, Eveno et Modern Men.
Radio Lomax, l'émission du 106.
Ce soir, au 106, The Avener et La Féline Agnès Guéraud qui est avec nous. Bonsoir Agnès Guéraud.
Bonsoir.
Toujours un réel plaisir de vous accueillir ici. La dernière fois, vous aviez votre livre sous le bras, La dialectique de la pop, aux éditions La Découverte. On vous demandait si le fait d'être une chanteuse, d'écrire des chansons, ça avait joué dans l'écriture de ce livre. Et comme on est un peu paresseux, on va poser la question inverse. Est-ce que l'écriture de ce livre, il a modifié votre façon de faire de la musique ?
Il a surtout rendu vraiment explicite le fait qu'il n'y avait pas de théorie pour faire un bon disque, enfin que ça a pu en puiser autre part, quoi. Mais en fait, je l'ai fait en faisant les trois albums que j'ai de La Féline, donc il est là depuis longtemps, ce livre.
Donc il n'a pas forcément impulsé quoi que ce soit.
Ouais, c'est plutôt la musicienne qui a instruit la théoricienne.
Alors, je rappelle que vous êtes philosophe, auteur de donc, Dialectique de la pop, compositrice, interprète sous le nom de La Féline, journaliste pour Libé, pour la rubrique...
Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas écrit pour Libé.
Ah, c'est vrai. Déjà, la dernière fois, je crois que j'avais dit...
Ouais, c'est ça.
Philosophie Magazine, toujours quand même.
Non plus, ça fait au moins 6 ans.
En tout cas, vous êtes toujours spécialiste d'Adorno, auteur du blog Moderne, c'est déjà vieux, même si effectivement, il n'y a plus grand-chose. Mais là, il y a un texte dans lequel on s'est servi largement. Vous nous proposez donc un nouvel album avec La Féline intitulé Vie Future, un disque de SF, plein de questions profondes, une plongée dans l'espace infini, la course en avant vers on ne sait quoi, si ce n'est rien du tout, de l'humanité, la vie, la mort.
Qu'est-ce que sera demain ? Le début ou la fin ? Ou la fin ?
Alors ça, c'est Yves Simon. On avait dit qu'on se dit que ce serait bien. Que sera demain pour le plaisir ?
Parfait.
Troisième album, donc après Adieu l'enfance et Triomphe, un disque, donc on le disait, qui scrute l'univers, le grand tour, en même temps que des sentiments plus personnels, plus intimes. Vous avez mêlé les deux approches que vous aviez expérimentées dans les deux premiers albums, en fait, de votre intime, faire quelque chose d'universel cette fois-ci. C'était la volonté avec ces nouvelles chansons ?
Ouais, j'ai l'impression que c'est la volonté de toute chanson. Enfin, peut-être que... ouais, c'est... En fait, il n'y a pas de chanson universelle qui ne passe pas par quelque chose de très profond chez celui qui la compose, quoi. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je réussis un morceau qui marche plus, qui touche plus les gens, bah, en fait, c'est le plus intime. Comme Adieu l'enfance, qui était un des plus intimes. Et là, sur le dernier album, Tant que tu respires, qui est peut-être qui a un morceau très... voilà, où je vois vraiment la personne dont je parle sur son lit de mort, quoi. Mmh. Et en fait, c'est là que c'est universel. Mmh.
Vous nous disiez en 2017, quand même, bien dissocier les deux exercices, celui de faire de la philosophie, de penser, et celui plus viscéral, on va dire, de l'écriture de la chanson. Cette fois, donc, le corps et la pensée sont ensemble, on va dire. Vous avez écrit cet album en devenant mère, vous avez perdu votre papa dans cette...
C'est mon beau-père, oui.
Votre beau-père dans cette période, c'est ça. Mmh. D'ailleurs, il y a un très joli portrait sur votre blog. Et vous vous interrogez en scrutant la nuit noire au-dessus de nos têtes avec Vie Future. Vous avez associé un beau texte sur lequel nous allons donc nous appuyer pour ces quelques questions. Il démarre avec des vers de Lucrèce. Pourquoi démarrer avec ces vers, votre réflexion sur cet album ?
En fait, c'est étrange. J'ai toujours adoré ce passage. Donc voilà, il décrit un archer qui va aux limites de l'univers et qui lance en fait son trait. Et c'est pour démontrer, en fait, parce que les épicuriens sont les premiers à avoir pensé que l'univers était infini. Tu me fais faire de la philosophie. En
fait. Ah oui, forcément.
Et donc, il dit, bah, imagine un archer qui va aux confins de l'univers, tant qu'il pourra lancer sa flèche. En fait, même si tu imagines une bordure, une barrière, tout ce que tu veux, bah, donc, si, on sent bien qu'on ne peut pas se représenter la bordure, parce que dès qu'on se représente un bord, on se représente ce qu'il y a après. Et j'ai toujours voilà, beaucoup aimé cette image. Et il y avait ce côté, moi au début j'avais des titres très prétentieux pour cet album, je voulais l'appeler Finis Mundi, le finis en latin c'est les frontières du monde et c'est à la fois la fin du monde, donc voilà, il y avait, ça traînait dans un coin de ma tête, et au moment où j'ai écrit le texte, en fait l'album était vraiment terminé, enfin il y avait... J'avais un peu de recul dessus et je ne savais pas en écrivant le texte que par cette histoire de Lucrèce, j'allais en fait retrouver aussi la naissance de mon enfant et tout ça. Et qu'en fait, ce que j'étais en train de décrire, c'était aussi un monde à l'intérieur d'un monde et le cosmos que j'avais pu être pour ce bébé.
On va parler de ces histoires de sphères et de cosmos qui peut-être se cachent les uns dans les autres, un peu à la manière des poupées russes. Ensuite, vous citez un classique dans ce texte, toujours de la littérature SF, Rendez-vous avec Rama d'Arthur C. Clarke, et puis un film, Silent Running, de 1972. C'est l'intro de ce film qui est assez musical d'ailleurs, avec pas mal de chansons, qui parle de la solitude, de notre solitude face à l'univers infini, même si nous partons à l'assaut finalement des étoiles, d'essayer de trouver quelque chose finalement, ce film dit aussi qu'il y a de fortes chances qu'on ne trouve rien.
Ouais. C'est désabusé. Ouais. Et en même temps, voilà, le personnage est sur une planète terraformée, donc il est dans une immense serre. Et donc c'est hyper beau, quoi, une espèce de serre luxuriante au milieu de l'univers.
Il recrée la nature finalement qui a disparu, parce que c'est aussi de ça dont parle ce film.
Ouais, nostalgie de la nature, complètement.
Et de la destruction de la nature sur la Terre qu'on essaye de reproduire ailleurs. Est-ce que le futur, c'est une conscience plus aiguë aussi encore de notre solitude? Se projeter dans le futur, c'est avoir une conscience plus aiguë de notre solitude encore?
Ouais. En même temps, quand on se projette dans le futur, on voit pas que soi, puisque se projeter très loin dans le futur, c'est aussi envisager sa propre disparition. Et du coup, on voit l'humanité, en fait. Enfin, donc, en un sens, quand on se projette dans le futur, on voit de la solitude, mais c'est la solitude de l'humanité. C'est pas forcément celle de moi toute seule. Après, voilà, je trouve qu'il y a une poésie. Enfin, moi, dans tous les films de SF, je suis extrêmement séduite par ces scènes, voilà, d'astronautes tout seuls, de 2001, l'Odyssée de l'espace à comment il s'appelle, le film de Cuaron, Gravity, tu sais, quand elle est, d'ailleurs, il y a une scène très marquante où elle est en position fœtale là, dans le... Donc ça, c'est toujours assez émouvant, cette vision, voilà, de...
La position fœtale qui fait à nouveau référence à la maternité.
Bah, oui, oui. Ouais. Et où là, elle devient elle-même le bébé du cosmos, quoi. Enfin, une espèce de totalité qui la dépasse. Mais du coup, je dirais pas que c'est un... Paradoxalement, c'est pas un disque sur la solitude. Et peut-être que Adieu l'enfance, tu vois, c'était un disque où c'était beaucoup plus, en tout cas sur mon nombril, quoi, beaucoup plus seul. Et Triomphe, il y avait un côté, c'était toujours moi, mais avec une espèce de façon de rendre les choses un peu mythologiques. Et là, je me suis rendu compte que c'était un disque où il y a beaucoup plus de tu, enfin de gens, d'autres à qui je parle, que ce soit mon enfant, mon beau-père ou un ami, enfin. Et c'est pas si solitaire, c'est l'humanité qui est toute seule, mais pas moi.
Pour écrire ces chansons, vous êtes replongé justement dans ces univers, ces livres, ces films, ces ambiances particulières?
Pas vraiment, non. En fait c'est des trucs que j'ai tellement regardé et aimé que ça faisait partie de moi. Il y a très très longtemps, j'avais fait une cassette de démo qui s'appelait Sound Fiction. Sounds Fiction, donc avec un super jeu de mots, bon, qui n'a jamais vu le jour, mais j'ai toujours voulu faire un disque avec cette espèce d'inspiration SF. Puis il y avait le côté aussi, je me disais, bon, après Triomphe, qu'est-ce que je peux faire, quoi, enfin, je ne vais pas faire les chansons de la vie ordinaire. Donc voilà, je me suis dit, bon, il n'y a qu'un choix possible, c'est se projeter dans l'espace.
Oh. Alors ça, forcément, bon, c'est Strauss, ouais, ainsi parlé
Zarathoustra.
Zarathoustra.
Et le début de 2001.
L'Odyssée de l'espace.
Il y a une analyse géniale dans un bouquin de Alex Ross qui s'appelle The Rest is Noise, où il explique pourquoi c'est aussi puissant, en fait, cette suite d'accords, parce que c'est, en fait, tout est hyper prévisible, enfin, l'enchaînement est hyper naturel harmoniquement entre ces trois notes qui décrivent, en fait, un accord, et du coup, c'est irrésistible.
Vous dites aussi que vous évoquez tous ces sons, y compris ces sons qu'on peut entendre dans l'espace, parce que dans le vide, il y a a priori pas de sons, son, mais dans l'imaginaire pop notamment, l'espace est plein de sons, y compris de musique comme celle qu'on vient d'entendre. Est-ce que vous êtes servi de ces sons-là? Est-ce que vous les avez distillés, évoqués un peu, j'ai l'impression?
Oui, ils sont dans ma tête. Je ne peux pas forcément aller chercher. Il n'y a pas de son samplé. Enfin, il y a un sample dans le disque d'un morceau de Dr. John. Donc là, ça n'a rien à voir. Il y a un sample du son du battement de cœur de mon bébé. Mais ce n'est pas le son que les gens croient dans Voyage à Cithar. Il y a une pulse un peu qui ressemble au son du cœur. Mais en fait, le cœur d'un bébé, ça bat beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus bizarre. Et donc, c'est à la fin. Mais oui, cette respiration de Dave dans 2001, et ces sons, c'est comme si la musique devenait hyper épique, en fait, et forcément avec des moyens qui sont plutôt des sons aquatiques, des sons aériens, donc des sons de synthé, et qui ont à la fois un côté qui peut être hyper primitif, en fait, les sonorités électriques, électroniques, en fait, c'est pas, ça évoque pas que le futur, ça peut évoquer aussi des choses très utérines.
Intérieures, ouais,
tu vois,
dire.
En fait, c'est aussi très amniotique, tout ça.
Comment est-ce que vous avez travaillé? Toujours avec Xavier Thiré, producteur-arrangeur.
Ouais. Fidélité.
Comment est-ce que vous avez travaillé tout ça?
Alors, on a plusieurs protocoles. En fait, moi, les premiers morceaux, j'ai vraiment fait ça avec mon ordi et en allant prendre des sons sur iPad. Enfin, c'est complètement impur quoi, comme matériau. J'ai fait vraiment avec ce que j'avais. Et ensuite, donc il y a des morceaux que je lui ai amenés comme ça et qu'on a récupéré pas mal de choses parce que parfois la démo est vachement plus parlante en fait que, enfin, vachement plus émouvante ou qu'une version refaite. Et puis lui, bon, disons qu'il a un art de réalisateur où vraiment il va affiner les trucs. On a refait les batteries, on a beaucoup travaillé le son de batterie parce que c'est un peu ce qui caractérise un album. Et je voulais pas que ça soit de la pure batterie électronique. Donc c'est un peu une vraie batterie mais qui est miniaturisée en fait dans le disque et qui donne un peu cette teneur un peu d'une énergie mais qui est un peu étouffée, voilà, et qui est lointaine, voilà, pulsation intérieure en fait. Et puis il y a des moments aussi, on a fait pas mal d'impro avec Xavier, on se connaît très bien musicalement, donc on improvise et puis ensuite moi je réécoute tout de manière un peu obsessionnelle et puis je construis mes trucs à partir de ce que j'ai aimé et après je reviens le voir en lui disant bon alors ça.
Et quand vous improvisez, vous avez en tête l'ambiance, les films de SF justement, l'espace, tout ça quoi forcément.
Ouais. Alors au début c'était pas ça et puis au bout d'un moment oui ça s'est affirmé de plus en plus, ouais. En fait, un des premiers morceaux qui n'est pas sur le disque et qui est un bonus track, c'est Lucifer, qui est un des premiers morceaux du disque. Et la première phrase, c'est « Écoute ce poème que l'univers m'envie ». Donc déjà, je me plaçais dans un truc complètement mégalo et grandiloquent et épique. Et ça allait bien avec les sorcières de Ligeti, quoi. Ouais. Donc, qui a dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Donc, oui, moi j'ai beaucoup besoin d'imaginaire, enfin où la musique suscite très vite un imaginaire. Et voilà. Mais bizarrement, le titre Vie future, je l'ai trouvé assez tard. Je l'ai pas trouvé du tout de suite.
Pourquoi c'était difficile de se projeter dans...
C'était pas évident de trouver un titre. Pourtant, il est très simple. En fait, une fois que je l'ai trouvé, j'ai su que c'était lui. Mais avant, je vous dis, j'étais partie dans des trucs un peu compliqués. Non, c'était pas si évident.
Il fallait faire simple.
Ouais.
Dans ce texte, toujours que vous associez à l'album, vous écrivez « Je suis dans une pièce où j'ai pu rassembler mes instruments. On aperçoit la lune, un bout de ciel. Une vidéo me parle de l'effondrement des systèmes. Je ne sais pas encore que l'homme qui m'a élevé va mourir. Toi, tu as arrondi mon ventre et je suis ton cosmos. » Il a vraiment existé à ce moment-là?
Ah oui. Ah oui, complètement. Oui, d'ailleurs, j'ai envie de pleurer.
Plein de poésie, mais oui, c'est superbe. Oui. Et c'est un moment qui a déclenché quelque chose?
Oui, la vision. Ouais. En fait, moi, à chaque fois que je fais un disque, il y a une espèce de projection. Et d'ailleurs, Xavier, je pense que c'est ça qu'il aime bien quand tu travailles avec moi, parce que en fait, c'est un multi-instrumentiste. Enfin, il est plus technicien que moi pour plein de choses, mais moi, j'arrive un peu en mode pitié, quoi. Je ferme les yeux, je me mets à trembler, puis je lui dis, oh, ça va être comme ça ce disque, et c'est agréable parce que voilà, du coup, ça donne une nécessité, parce qu'après, il y a tellement de musique possible. Que quand on est musicien, parfois c'est dur. C'est ça le manque d'inspiration, c'est quand on n'a pas la vision de ce que ça va être.
Et il y a plein d'ambiances, il y a des notes asiatiques, des accents de musique contemporaine, des silences bien placés, de la musique spatiale, flottée par moments, des mélodies pop, des nappes synthétiques.
Ça a compté pour moi d'aérer aussi le disque, de laisser de la place au silence. Ouais.
On écoute juste ça.
Non mais c'est clair, je broie de l'azur, j'entends des prières venant du fond. Il y a des soleils qui se font la malle dans mon nid d'abeilles. On n'y voit que dalle, j'ai plus mal.
Ça, c'est Florent Marché, Que font les anges, un album très spatial et futuriste, Bambi Galaxy. Il n'y a pas tant d'artistes français qui sont penchés comme ça sur le grand tout, l'espace, le futur. On a entendu Yves Simon tout à l'heure avec cette chanson, mais il y a quand même des albums, concepts comme ça, qui ont nourri un peu votre démarche ou vous n'êtes pas allé chercher du tout ailleurs?
Si. Bon, après, il y a des classiques, Space Oddity. Enfin, moi, petite fille, j'adorais ce morceau, je l'aime toujours. Mais, et puis, il y a tous les trucs de Clinton, enfin l'afrofuturisme, enfin après voilà, je suis assez loin d'un style funk, mais un qui m'a vraiment marqué précisément pour ce disque, c'est un morceau très très beau de Pierre Vassilieu qui est sur les faces B qui sont parues chez Born Bad, et il y a un morceau qui s'appelle Alentour de lune. Et alors, il a juste ses guitares-voix, mais guitare avec une espèce de chorus, enfin du coup qui donne direct, on est dans l'espace. Et très très sombre, texte très sombre. Et voilà, il commence au-delà des étoiles. Tu verras si tu l'écoutes. C'est un peu un modèle parce que il est très très émouvant, fait avec pas grand chose. Et on est dans quelque chose de cosmique, de spatial.
Ça me fait penser aux balances. Je suis venu voir un petit peu pendant les balances. Ouais. Et Ziavner, il y a beaucoup de matos sur Ziavner. Ouais. Et toi, tu es sur le devant de scène pour rejouer tout à l'heure avec toutes tes pédales et ta guitare seule comme ça. Ça me fait penser à ça quand tu me parles de Vassilieu seul avec sa guitare. Il y a une sorte de simplicité aussi malgré tout. Quoi.
Oui, tout à fait. Ouais. Après, voilà, il y a plein de partis pris différents. Là, ce soir, je vais vraiment faire un seul guitare-voix. Et après, il y a d'autres morceaux. Il y a beaucoup de loops. Il y a beaucoup de... Parce que je veux garder quand même un peu les textures du disque. Mais il y a plein de chansons qui pourraient se chanter guitare-voix, mais avec avec un petit délai ou un chorus. Il faut le côté pur folk sans effet, je pense que ça marcherait moins sur ce disque. Il faut qu'il... Voilà.
C'est un album aussi peut-être plus mystique que les autres. Alors c'est marrant parce qu'on parlait hors micro tout à l'heure d'une chronique en Allemagne qui a fait la référence avec le fait que tu sois né pas très loin de Lourdes et qui donc fait des raccourcis, j'imagine, avec ça. Qui interroge donc le néant, la vie, la mort, Dieu et son contraire. On en parlait tout à l'heure, c'est Sonra avec Space is the Place. C'est aussi un film SF en 1972. Sonra qui se questionne lui aussi sur les aspects métaphysiques de l'avenir. Le futur et ses questionnements métaphysiques mènent-ils vers la spiritualité? Agnès Guéraud, revient à la philosophie.
Belle question. Parce que ce que j'allais dire, c'est que tu vois, quand il dit Space is the Place, c'est vraiment ce moment afro-futuriste où il y a l'idée que les Noirs souffrent sur Terre et que du coup, c'est le paradis, c'est la colonisation de l'espace. Quoi. Et ça, c'est un truc auquel on ne croit plus aujourd'hui. Enfin, y a même dans l'histoire de l'afrofuturisme, justement, il y a un truc beaucoup plus sombre. Et enfin, on ne croit pas que voilà, la conquête spatiale, c'est moins un truc qui nous fait rêver. Enfin, au sens où ça nous faisait rêver avant, en mode conquérant, justement. Maintenant, on est un peu plus inquiet, quoi, on va dire. Mais est-ce que ça amène à la spiritualité? Ouais, je pense que pour moi, la musique... c'est ma religion. Non, mais depuis longtemps, enfin, tu vois, j'ai eu une éducation catholique. Hein, j'allais à la messe quand j'étais petite, j'étais amoureuse de Jésus et tout. Mais je crois plus. Mais j'ai mis tout mon mysticisme dans la musique et c'est un long chemin, quoi. J'ai même pas l'impression d'être arrivée au millième des expériences mystiques que pourrait me donner la musique que je fais. Par contre, à la musique à écouter en tant qu'amateur de musique, ça oui. Ça, mais voilà, et puis le côté espace, ouais, tu sais, ça fait penser à les pensées de Pascal, là, les grands espaces infinis. Qui te renvoie à ta petitesse, et le rapport entre les deux te renvoie au fait qu'il y a peut-être, quelqu'un pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Mais je n'ai pas un esprit religieux dans le sens où je ne cherche pas quelqu'un qui va me dire comment vivre ma vie. Mais j'ai tendance à bien aimer l'idée qu'il y a un au-delà du réel. Ça, c'est vrai.
En tout cas, il y a sans doute des portes voilà. à passer, peut-être des trappes dans lesquelles il faut voilà. également plonger. Exactement. On ne sait pas trop, en fait. Hein.
C'est ça, des mondes possibles.
Voilà. Ouais. Votre texte qui accompagne donc le disque se termine ainsi. « Puisses-tu aimer ce nouveau monde ancien ?» Vous vous adressez à votre enfant. « Comme malgré tout je l'aime, puisses-tu trouver la trappe cachée qui l'ouvre à d'autres rêves ?» Et enfanter toi-même un jour quand tu voudras de nouveaux mondes futurs. On souhaite un beau parcours à votre enfant et à votre disque qui est magnifique. Merci beaucoup, Agnès Guéraud.
Merci.
Au revoir. Yeah. Bonsoir Evno.
Bonsoir.
Evno, Philippe Evno, guitariste et compositeur. Vous avez enregistré une vingtaine d'albums avec différents artistes de chansons françaises, dont Philippe Catherine.
Oui.
Vous écrivez aussi des histoires pour les plus jeunes d'entre nous. Peut-être on va commencer par aborder ça. Comment est-ce que, alors pas la littérature jeunesse, mais plutôt votre collaboration avec Philippe Catherine. Comment c'est le travail avec Philippe Catherine ?
Ah bah c'est nous on a commencé à Nantes quand j'habitais à Nantes, lui il était jeune auteur-compositeur à l'époque et il cherchait des musiciens de jazz. Il avait fait déjà deux albums et il était c'est des albums qu'il avait fait en home studio, tous il jouait
avec son fameux radiocassette comme Dominique Calmezet à l'époque,
ouais. Voilà, c'est ça. Et puis là, maison de disques aidant, ils cherchaient donc des musiciens pour enregistrer en studio. Et donc là, on est en 94 quand même. Hein. Et on a enregistré à Bordeaux, on s'est rencontrés et avec Simon Marie et on est allé et Antonica. Et on est allé à Bordeaux enregistrer l'album Les Mauvaises Fréquentations.
Qui sont deux musiciens nantais également, j'imagine.
Deux musiciens nantais et avec qui on est allé enregistrer ce disque. Et puis après, voilà, après, ça s'est déroulé comme ça sur ces... je ne sais pas, 95, ça fait quelques années, mais
ouais.
On ne va pas compter.
Non, on ne compte pas. De toute façon, je suis mauvais en calcul. Comment est-ce qu'on travaille avec Philippe Catherine ? C'est facile de travailler avec lui ?
Ah, c'est très facile parce qu'il sait exactement ce qu'il veut. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Il y a beaucoup d'artistes qui se posent plein de questions, notamment en studio, sur la production de leur disque. Et, donc lui, il compose... paroles et musique, ça se déroule en même temps, hein, ça vient en même temps. Donc il arrive avec ses chansons écrites et ça nous arrivait voilà, de faire des arrangements en studio plutôt. Mais donc c'est très simple parce qu'il dit oui ou non et ça va très vite.
Et il y a une ambiance particulière quand on travaille avec lui ?
Ouais, il y a une ambiance à la Philippe faite de sérieux et de camaraderie en même temps. Et donc on fait les choses, comme disait Anna Karina, on fait les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux. Et je trouve que c'est quelque chose qui va bien à Philippe.
Quel est le début de votre parcours de musicien à vous ? Alors on a cru comprendre que c'était du côté de Nantes. Rencontre avec la guitare notamment, cet instrument.
Ouais. J'ai fait une école de jazz à Nantes avec Bob Dixon, qui est un musicien qui malheureusement a disparu. Et qui était un trompettiste de jazz et qui enseignait comme ça une petite bande... la musique et surtout l'improvisation et le jazz. Et j'ai commencé comme ça. Et puis la guitare, bah sinon c'était au collège.
Dans des groupes encore.
Ah ouais, des groupes. J'ai fait une apparition dans les Knights à Angers, qui était un groupe rock. Et puis après, dans les groupes, on avait le Grand Groove Orchestra à Nantes, qui était un groupe qui reprenait des chansons de groove. Des années 60, des classiques. Après, je suis parti plus accompagner des artistes sur scène.
C'est ça. Est-ce que c'est la rencontre avec Philippe Catherine, justement, qui provoque les premières rencontres
Bien sûr, beaucoup, parce que Philippe, c'est une locomotive. Donc, ça part très vite et dans tous les sens. Et nous, on était... plutôt sur Nantes et sur la région. Et on était, comment dire, des musiciens régionaux. Et puis, Philippe, il a très vite éclaté tout ça. Et c'est devenu plus national.
Et ensuite, donc, vous avez entamé une carrière de musicien qui donc, accompagne les artistes sur scène, en studio.
On a fait des tournées... en tournée, j'ai joué avec Anna Karina, avec Jeanne Chéral, avec Elena Noguera. On fait beaucoup de concerts en ce moment encore. Et puis là, lundi, je serai en studio avec Serge Resvani, qui a écrit toutes les chansons de Jeanne Moreau, qu'on connaît, Le tourbillon de la vie, La mémoire qui flanche et tout ça. Donc c'est un monsieur de 91 ans. et qu'il a vient de perdre sa femme, Marie-José Nat, et donc il voudrait enregistrer et qu'on enregistre ensemble ses chansons hommage qu'il vient de composer. Donc ça va être un moment très émouvant de découvrir ces chansons et de les enregistrer ensemble.
Et alors, bon, alors il y a le travail aussi avec le travail d'écriture pour la jeunesse. Vous avez été amené à produire La Petite Sirène d'Andersen, adaptée par Anna Karina avec Catherine, plein d'autres artistes également. Ouais, vous nous parlez de cette aventure, ça a été un moment particulier, j'ai l'impression, non ?
Oui, parce que c'est l'enfance, c'est toujours... Et puis, c'était drôle à composer, parce qu'Anna est très drôle, elle a beaucoup d'humour, et elle est, et je l'embrasse fort, d'ailleurs, parce que là, enfin, je l'embrasse, quoi. Et donc, on s'est beaucoup amusé à écrire ses chansons, elle écrivait ses textes, elle me les envoyait, et il y avait plein de coin-coin, de poète-poète et de trucs. On s'est beaucoup amusé. Et puis, on en a fait deux, comme ça, La Petite Sirène et Le Vilain Petit Canard. Et puis après, j'ai pu faire chez Actes Sud donc une histoire que j'ai écrite qui s'appelle Gigi Reine de la mode, qui est l'histoire d'une jeune styliste à qui il arrive plein d'aventures dans les siècles passés, qui voyage dans le temps.
C'est un exercice particulier d'écrire comme ça de la musique autour d'histoires comme ça quand on s'adresse aux plus jeunes.
Oui, c'est bien sûr. Enfin, tout est particulier, mais moi, j'aime bien partir d'un texte. J'aime bien qu'on me donne un texte et je le mets en musique. C'est ce qui s'est passé avec Anna. Et c'est moins évident pour moi d'écrire paroles et musique.
Si vous y êtes mis, on va y revenir.
Je m'y suis mis, mais ouais. c'est quelque chose qui est moins naturel pour moi. Je préfère partir. Alors, un texte m'emmène tout de suite quelque part et ça se déroule tout seul.
D'ailleurs, vous avez écrit de la musique également sur des poèmes de Cocteau, je crois. Hein.
Oui, pour un film d'Ariel Dombal qui s'appelait Opium, qui était une aventure passionnante autour de... Donc, c'est un plongeon dans l'univers de Cocteau qui est quand même assez fascinant. Et donc de mettre en musique des poèmes comme Plein Champ, c'est quand même des aventures où il faut faire très attention parce que la poésie, c'est déjà une musique. Donc voilà, mettre de la musique sur de la musique, ça peut être dangereux. Donc c'est un exercice très particulier de mettre en musique de la poésie.
Le film s'appelle Opium, pour ceux qui voudraient aller creuser un peu. Aujourd'hui, donc en première partie de Philippe Catherine, vous vous retrouvez seul sur scène.
Oui.
Après être resté justement un peu dans l'ombre des autres, vous êtes à présent en pleine lumière. Comment ça se passe pour vous ?
Ça se passe plutôt bien pour l'instant. C'est mon troisième concert, quatrième concert depuis on a démarré à La Rochelle. Et là, bon, c'est vraiment un cadeau de Philippe qui m'a appelé un jour en me disant « Voilà, je veux que tu fasses mes premières parties. Tu joues les chansons que tu nous joues le soir à table et joue-les sur scène. » Voilà.
Ça s'est vraiment passé comme ça. C'est-à-dire que
c'est
chansons que vous jouez quand vous vous retrouvez pour manger un morceau le soir.
Des bœufs chez les uns ou les autres, en bande, hein, on n'est pas les seuls, on est plusieurs, mais voilà. Et ça s'est vraiment passé que j'étais, pour tout vous dire, j'étais à la crèche à déposer ma fille un matin et il m'a appelé, il m'a pris vraiment, je suis tombé sur le cul.
Du coup, il y a une sorte de pression qui doit s'installer là.
Ouais, c'est chouette. C'est un rapport au public. C'est vrai que moi qui suis toujours sur scène derrière un chanteur ou une chanteuse, là c'est quelque chose, c'est un autre exercice et c'est passionnant. Parce qu'on est en prise directe avec le public.
Et ces chansons, et ces chansons-là, vous les avez depuis longtemps dans votre poche ?
Ouais, c'est des chansons pour le coup. Là, je fais des chansons que j'ai écrites, paroles et musique, que j'avais écrites pour Anna Karina justement, et puis aussi je fais aussi notamment une chanson d'un autre répertoire qui s'appelle le R26, qui est un spectacle que j'ai avec une troupe de théâtre. Et le R26, c'est passionnant. Ce sont des gens qui écrivaient des chansons dans les années 20 et qui étaient un couple amoureux. Et donc l'homme écrivait la musique et la femme les textes. Ils travaillaient dans la mode, ils étaient d'un milieu plutôt aisé, ils habitaient à Montmartre. Et ils avaient toute une bande d'amis, donc ils avaient créé un cercle qui s'appelait le R26. Et dans ce cercle, il y avait Django Reinhardt, il y avait Stéphane Grappelli, il y avait Le Corbusier, il y avait les Delaunay, enfin, il y avait toutes sortes de Joséphine Baker, enfin plein de gens passaient comme ça. C'était vraiment un club pour faire de la musique, chanter et faire la fête aussi. Ça avait l'air plutôt bien arrosé. Et ils ont écrit plein de chansons pour Jean Tranchant notamment et d'autres. Et à l'époque, donc on est dans les années 20. Hein. Et ces chansons, on est en train de les faire revivre. Pour il y en a beaucoup qui sont inédites, qui n'ont jamais été publiées. Et donc on est allé chez les ayants droit chercher les vieilles partitions manuscrites pour les enregistrer.
Comment vous êtes tombé sur ces chansons?
Ah bah c'est par Monsieur Barogeli, Norman Barogeli, qui est un passionné de musique de cette époque-là, qui nous a parlé de ce projet et qui et bien sûr on s'est jeté dedans parce que les chansons sont très chouettes et notamment celle que je joue ce soir là, qui est c'est très bien écrit, c'est intemporel, ça pourrait être écrit la semaine dernière, c'est très chouette.
Et en même temps, ça ressemble un petit peu, quand vous parlez du R26, je fais le parallèle avec ce que vous disiez tout à l'heure, avec ces soirées que vous faites à
c'est
plusieurs,
ça,
faire des bœufs, s'amuser, faire
c'est
de la musique.
Ça, finalement, et c'est ce qu'on essaye, donc on a monté un spectacle aussi autour de ce répertoire, avec Norman justement, qui c'est une sorte de conférence-spectacle, où lui il explique le principe de ce club. Il a retrouvé également des vieilles vidéos d'époque qui ont été tournées, pas des vidéos, des films, quoi, des petits films. Ils avaient une petite caméra de famille comme ça et ils filmaient un peu. Et donc avec Gaëtan Châtaignier qui est sur le projet aussi, on a toute une série de vidéos et moi je chante avec Claire Tillet les chansons et Norman présente, voilà, fait un peu le...
Il y aura un objet de tout ça à un moment donné ou...
On va enregistrer l'album, oui, c'est prévu début 2020. Là. On va l'enregistrer. Pour l'instant, on fait les concerts d'abord.
Et de vos chansons, celles que vous allez interpréter ce soir?
Ça, les chansons, ça c'est vraiment le tout dernier projet, c'est tout neuf. Donc oui, mais ça donne envie évidemment d'étoffer un peu le répertoire et d'aller dans ce sens-là. Et pourquoi pas un jour les enregistrer.
Bon, on va rester à l'écoute alors. Merci d'avoir été venu ici répondre à ces quelques questions. Evno, donc, pour ouvrir ce soir le concert de Philippe Catherine.
Que dis-tu de ce manteau de fourrure? Quand dis-tu neige pas belle allure? N'est-ce pas si étonnant de se voir si différent, d'être dans la peau d'un autre ou d'une autre? Je ne suis plus celui que tu attends, je suis peut-être un peu plus attirant. Les miroirs évanouis, tes lèvres qui me sourient, c'est un vrai paradis. Semble avoir un peu plus d'allure. Qu'en dis-tu dans le manteau de fourrure? Et si tout ça n'était pas que du vent? Chaussures.
Radio Lomax.
L'épée ce soir est Modern Men pour ouvrir. Bonsoir messieurs de Modern Men. groupe rouennais qui prend racine dans les groupes du collectif Sosa, Quentin, vu dans Elephants ou Greffel, et Adrian Mankins. Une musique synthétique et outrageuse, des voix qui scandent et se répondent dans une forme de colère tournée vers l'époque. C'est un petit peu comme ça que je le sens. Vous étiez au Bar en Transe le week-end dernier. Vous nous racontez ce que vous avez vécu là-bas ?
Je trouve que les Bar en Transe, on m'avait fait tout un énorme pataquès. C'était marrant parce qu'on était des gens et on s'amuse bien. Mais après, nous, notre expérience des Bar en Transe, c'était...
Mitigée.
Mitigée. Enfin, après, voilà. C'était bien. Hein. Enfin, c'était pas... Enfin, en gros, c'est super blindé. Les musiciens peuvent pas aller dans les autres salles. Donc, en gros, nos potes pouvaient pas venir nous voir. On pouvait pas aller voir nos potes. Nos amis pouvaient pas rentrer parce que c'était déjà tout... Tout était super bloqué. Tout était super sclérosé. Donc, c'était... En gros, on a dû tous aller... à l'after pour pouvoir se parler, ce qui est quand même pas le principe d'un festival, quand les gens veulent rester un peu sur le site. Donc je sais pas, c'était un peu mitigé quoi.
J'ai l'impression que les Rouennais étaient présents en force un peu, il y avait du monde là-bas, non ?
Bah, il y avait YPD.
Ouais, il y avait Dharma aussi, Dharma Bum, qui aussi fait partie de Sosa aussi.
Et puis, c'était pas mal.
Les Way At You Please, ils étaient pas là-bas ?
Oui, si.
La veille, ouais.
YPD, ouais.
Donc vous voici en vacances de vos groupes respectifs pour Modern Men. Comment est-ce que ça s'est construit, cette envie de duo, tous les deux ?
Ça s'est construit, on a développé une sorte de langage entre nous deux pour communiquer, pour faire des choses, hein, depuis, je sais pas, 5 ans à peu près, je sais pas, un truc comme ça. Et puis, du coup, c'était un peu là. À la base, c'était un peu juste pour essayer des trucs. Et puis finalement, ça a pris forme un peu plus sérieusement, quoi. Mais voilà.
C'est quoi ce langage que vous avez développé pendant 5 ans ?
Je sais pas. On a d'être un peu. De faire des trucs qui servent à rien. Explorer un peu les frontières du mauvais goût.
On a enregistré pas mal de trucs ensemble. Et du coup, le fait de se retrouver sur un truc qui soit. Complètement en dehors des musiques à... Enfin, c'est pas complètement en dehors des musiques à guitare, mais qui soient pas basées là-dessus, tu vois, ça nous a permis d'ouvrir pas mal d'autres choses, en fait. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup envie de travailler sur de la matière sonore de synthé, des boîtes à rythme, tu vois, ce qui était pas l'évidence même avec les autres projets dans lesquels on joue, tu vois. Donc, c'était un peu ce point de départ, je pense.
Et pourquoi ça a mis 5 ans ?
Ah non, ça n'a pas mis 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on fait des trucs ensemble, mais que ce soit avec Sun Yung, que ce soit avec les morceaux qu'on fait chez nous au PIF qui servent à rien, que ce soit les compilations qu'on a enregistrées de groupes ou n'importe quel bazar. Quoi. C'est simplement, tu vois qu'il y a des gens avec qui tu peux faire un truc facilement, rapidement, et d'autres avec qui c'est plus compliqué. C'est pas forcément que c'est mieux. Hein, mais en tout cas voilà, c'est une manière de truc qui a pas trop de contraintes. C'est un peu comme si t'as une meuf qui habite à, imaginons t'habites à Angers et l'autre elle habite à Berlin, tu vois. C'est comme si nous on se voyait que pour baiser, tu vois. Il y a des couples, forcément c'est super bien d'avoir un couple et de vivre avec l'être aimé machin tatati, mais là tu vois dans les films ou dans la musique, c'est quand même mieux. On a vu que pour les scénars, c'est mieux quand on se voit que pour baiser. Du coup, on fait que baiser. Moi, j'habite à Paris. On répète pas, jamais. On compose pas ensemble. Il m'envoie des trucs par internet. Moi, je lui renvoie d'autres trucs. Et après, quand on se voit, on baise.
Du coup, il y a un truc très jouissif, quoi, sur le moment, quoi. Voilà. Une espèce d'éjection, de pulsion. Vous vous êtes dit quoi quand même tous les deux avant de vous lancer dans ce duo ? Est-ce qu'il y a eu des discussions politiques sur la façon de dire les choses, sur des envies musicales ?
Alors moi je me souviens d'un truc en particulier, c'était, tu m'as dit, je voudrais qu'esthétiquement parlant ça ressemble à un japonais de 30 ans qui se branle. Ça c'était chez Thierry d'ailleurs.
Ouais, mais finalement on n'a pas suivi cette branche.
Non.
Mais j'avais envie d'un truc très 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 asiatique. Bah, finalement nos pochettes de... Notre EP qu'on vient de sortir, là, c'est un Vietnamien de 10 ans avec une malformation qui lui fait une queue. Donc, on est finalement resté un peu
dans le thème, ouais.
De manière un peu plus.
J'ai suivi cette route-là un peu débile, quand même, peut-être.
Mais oui, après, on avait discuté plein de choses. C'est vrai que moi, j'avais envie de faire un truc autre que ce que je faisais. Hein, pas forcément plus révolutionnaire ou quoi, mais pour moi, révolutionnaire. Dans l'approche que j'avais. Pour moi, j'étais content. Ça me faisait faire un truc complètement différent, qui m'apportait d'autres choses et qui me faisait faire d'autres choses et qui me rendait et qui m'a permis de me rendre compte aussi que c'est pas voilà que j'avais plein d'idées qui ont été déconstruites par ça, donc c'est bien.
Déconstruites par ça, c'est-à-dire par moderne même.
Par comment on compose, par comment on fait un concert.
C'est-à-dire on repense tout ça quoi.
Ouais. On repense oui, enfin bah, une manière différente. Mmh. Je condamne pas les manières que j'ai fait avant, tu vois. C'est vraiment juste une manière différente.
Je crois qu'au début on s'est pas dit grand-chose de particulier en fait sur la forme que ça allait prendre, et c'est vraiment en essayant plein de pistes possibles qu'on a ensuite éliminé ce qu'on voulait pas faire, tu vois.
Ouais.
Et à présent maintenant la formule est beaucoup plus établi, même si on va quand même essayer de continuer à expérimenter et trouver d'autres façons de faire de la musique, tu vois. Mais oui, on a réussi à éliminer au fur et à mesure les trucs qui nous branchaient le moins au final.
Bah, c'est vrai que le live là, il est un petit peu bloqué dans sa formule actuelle. On a plein de morceaux. Comme je dis, vu qu'on répète pas, on peut pas trop amener les nouveaux morceaux. Mais du coup, ce qui est sûr, c'est que quand on va passer au deuxième concert, enfin deuxième live, faudra qu'on supprime celui-là, quoi, en gros. Enfin, il y aura pas beaucoup de choses qui vont pouvoir être, à mon avis, transposées à la seconde.
Est-ce que vous avez déjà imaginé ce qui allait se passer ensuite?
Bah, c'est
en
qu'on
partie,
a.
Ouais,
bah, c'est pas qu'on imagine, c'est que c'est qu'on a plein de morceaux qui sont en train d'attendre là.
Et il y aura des choses encore plus électroniques, ça. Donc je pense qu'on fera. C'est pas les mêmes outils. Table rase de ce qu'on a fait sur la première mouture du live, tu vois. Mais c'est tant mieux, je pense. Hein, c'est arriver à se renouveler comme ça.
C'est-à-dire dans la façon.
C'est pour le mieux, à mon avis.
Ce sera pas les mêmes outils. Je pense qu'on va. Il y aura pas forcément de guitare. On va peut-être des percussions un peu différentes, peut-être un peu qui auront peut-être une place un peu plus réelle dans les sons percussifs. Parce que là, nos percussions, c'est plus en vrai, c'est plus des effets sonores qui se mélangent, c'est plus un truc agressif qui vient un peu attraper la personne et tout, c'est cool, hein, j'adore, mais il y aura plus d'une vraie percussion, je pense qu'on va utiliser plus de synthé, enfin en même temps c'est pas compliqué vu qu'on n'en utilise aucun pour le moment, donc on va en utiliser plus. Et voilà, c'est juste qu'on peut pas, moi j'ai pas envie, enfin le but c'est pas d'avoir 10 000 trucs et de jouer au mec qui jongle avec tous les instruments,
oui,
tous les
outils. Oui, on va pas faire Jean-Michel Jarre non plus, tu vois, mais ça peut être pas mal justement d'arriver à ramener un peu des machines sur scène. Là, c'est encore hyper hybride pour l'instant. Il y a ce truc, encore ce côté un peu presque rock, tu vois, qui reste avec cette guitare.
Et vous voulez vous en détacher de ça, de cet aspect rock?
Ah ouais, complètement, ouais.
Complètement.
Bah là, en ce moment, on écoute du dub, des choses comme ça.
On veut garder l'aspect punk, mais l'aspect rock, on s'en tape.
C'est pas une composante du projet, je pense, ce truc-là, tu vois, mais... Mais oui, c'est des choses qu'on va vraiment faire évoluer. Déjà, ne serait-ce que ramener des machines analogiques, des trucs comme ça sur scène, peut-être des boîtes à rythme, j'en sais rien, on verra, tu vois. Enfin,
vous citez les Berrues aussi, parce que vous écrivez aussi en français. C'était une blague, citer les Berrues?
Je laisse répondre.
Non, c'est pas une blague. Mais c'est un peu particulier. Enfin, il y a un truc, j'ai... Quand j'écris en français, j'ai un truc pour écrire qui est très très particulier. Je pense au punk français et je pense au groupe d'extrême gauche et au groupe d'extrême droite. Et j'écoute un peu comment ils chantent et je me dis, ah tiens, les groupes d'extrême droite, ils ont des refrains un peu à la con, un peu plutonique, c'est marrant, en français ça marche un peu comme ça. Et puis les groupes d'extrême gauche ont un truc un peu plus, je sais pas, c'est un peu plus dans le rang, bizarrement. Il y a plus de paroles, ils ont plus de trucs à dire. Donc du coup, je m'inspire d'eux quand j'ai envie de faire des couplets. Et les Berrues, c'est un espèce d'hybride où là, carrément, les paroles, c'est carrément n'importe quoi. C'est une espèce de poésie de cirque complètement con et tout. Et je pense que c'est notre plus grande influence en termes de trucs français, ouais. En termes de paroles et puis d'énergie punk et puis de ce truc des mecs qu'on fait un groupe de punk mais sans les instruments, même si bon on n'est pas sûr de l'expérimentation comme il y a pu y avoir en Angleterre, mais il y avait quand même un truc. Et puis je sais pas, c'est quand même, vu que le groupe c'est une espèce de patchwork de tout ce qu'on a écouté depuis qu'on a 12 ans, les BRU c'est quand même le truc que j'écoutais en rentrant chez moi après les manifs du CPE dans ma chambre à fond là, je trouvais ça super. Et finalement, c'est pas vraiment parti, quoi, finalement, quelque part.
Le problème des Berrues, c'est que ça part vraiment jamais, j'ai l'impression.
Non, et puis que le saxo, c'est trop bon, on en veut plus. On en veut toujours plus.
Et en même temps, il y avait effectivement cette poésie un peu clownesque, mais il y avait aussi des choses plus directes en termes de contestation, de revendication. Ouais. Vous voulez être plus direct dans le propos aussi par rapport, je pense, à vos autres groupes aussi. Vous aviez envie d'être plus direct.
Après, moi, ce qui est marrant, c'est que dans les chansons les plus pop, c'est là où j'ai mis des chansons avec des thèmes assez politiques, on va dire. Et dans les trucs un peu plus agressifs, c'est un peu plus débile, un peu plus égocentrique. Mais donc, du coup, oui, c'est, bah, moi, enfin, j'avais jamais écrit des chansons sur autre chose que moi, on va dire. Parce que, enfin, et maintenant c'est toujours sur moi parce qu'en fait, malgré, enfin, on peut pas faire autrement, tu vois. Mais je regarde un peu plus vers, enfin, je regarde les trucs autour de moi, quoi. Des fois. Et du coup, quand je chante en français, un peu plus.
Adrien aussi.
Ouais, il me
quelle
regarde
position
un peu des fois,
t'as ouais. J'ai vu que vous citiez aussi Marilyn Manson. Alors ça, c'est peut-être le côté électro-induit. Alors j'ai lu le papier du Paris-Normandie, la petite interview de Paris-Normandie, qui est sortie aujourd'hui, je crois. C'est la provocation aussi, le côté électro-induit.
Marilyn Manson, comme moi, c'est carrément le premier CD que j'ai eu de ma vie. Donc
c'est l'esthétique aussi. Enfin, l'esthétique, elle est tellement complète. Je pense t'aimes ou t'aimes pas, mais il y a pas trop de demi-mesure, je pense, avec les trucs comme Manson ou Nine Inch Nails. Tu vois, enfin, c'est tellement extrême. Dans tout ce qu'ils ont pu faire, que ce soit visuel, son, à peu près n'importe quoi. Enfin, à un moment, tu prends tellement un pavé dans la tronche que... ouais, c'est marquant, je pense, ce genre de musique. Tu vois. Donc forcément, vu que nous, on fait des trucs qui sont beaucoup plus synthétiques, beaucoup plus froids maintenant, bah, c'est des références qui s'imposent un peu, je pense. Ouais.
Et puis, c'est un parti pris aussi d'être extrême aussi dans...
Bah, avec ce projet-là, ouais,
non,
je pense.
Mais pas si extrême que ça. Hein. Comme Manson ne l'était pas, parce qu'en vrai, c'est un mec qui, justement, arrive à avoir la balance parfaite entre... Bah, c'est sûr que pour plein de gens, il faisait que se rouler par terre... En se pétant dessus, mais pour plein d'autres gens, il était super soft parce qu'en fait, simplement, il était pile poil au milieu pour que tout le monde le déteste et tout le monde l'aime. Que ce soit, c'est quelqu'un qui joue
malin,
bien avec.
C'est malin, c'était une image extrême dans le mainstream, tu vois.
Bah après, oui, ça l'est devenu avec l'époque, mais non, moi je pense que c'est vraiment un mec cool, vraiment qui est un petit peu en Europe, on n'a pas trop compris ce qu'il voulait dire, quoi. Tout le monde dit l'antichrist, machin, tatati, alors que bon, pas du tout, mais bon, ouais. C'est pas grave.
On l'embrasse d'ailleurs.
On l'embrasse, on lui fait... Brian, si tu nous vois.
Et une dernière question, quand on s'appelle Modern Man et qu'on propose un 4 titres intitulé « Anéantir le monde moderne », il y a comme une sorte d'annihilation qui se profile à l'horizon. Ça veut dire quoi? C'est bientôt la fin de Modern Man ou...
C'est bientôt la fin de tout.
Ouais, c'est pour ça que
en fait,
là.
Nous sommes Maya. c'est ce qu'il faut retenir.
Ah, mais c'est déjà passé la fin du monde avec les Mayas.
Mais enfin, je suis Maya personnellement, donc je te dis que malheureusement, ils se sont trompés.
Ah.
On a refait les calculs avec
des bouliers.
Un algorithme qu'on a développé là. Et ça va être dans 6 mois à peu près là. À vue de nez.
Il faut être à l'écoute de vos chansons pour comprendre ce qui va se passer dans les 6 mois.
Il faut tout convertir en binaire et t'as le lieu et la date.
Ça marche. Merci les Modern Men. Bonne route à vous. À bientôt.
Merci.
Radio Lomax, c'est fini pour aujourd'hui. Le 106 fait une petite pause pendant les fêtes. Pour les prochains concerts, rendez-vous donc à la mi-janvier. Et pour la prochaine émission Radio Lomax, rendez-vous la semaine prochaine. Say no!